Eh bien, aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec le professeur Patrick Cordier, qui est professeur des universités à Lille et qui est spécialiste de physique des matériaux. Bonjour, monsieur Cordier.
Bonjour.
On va parler de vos travaux, de vos recherches, et aussi de l'équipe de votre laboratoire qu'on va présenter déjà maintenant.
Alors, l'équipe fait partie d'un laboratoire de physique des matériaux qui s'appelle l'UMET, Unité des matériaux et transformations. Plus globalement, c'est un laboratoire qui fait partie du pôle chimie et matériaux de l'Institut Michel-Eugène Chevreul qui structure ce domaine sur le campus. Alors, c'est un labo qui travaille sur plusieurs champs des matériaux, la métallurgie, les matériaux polymères, des matériaux pharmaceutiques, mais dans lesquels nous avons aussi une équipe qui travaille sur les minéraux.
Donc aujourd'hui, on va parler de la matière profonde de l'univers, de ce qu'on ignore, de ce qu'on ne connaît pas vraiment, mais que vous, avec vos outils, avec les instruments, l'informatique, vous arrivez à comprendre, à cerner, à matérialiser quelque part.
Exactement. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'intérieur de la planète. Et il faut bien se rendre compte que c'est une des zones les plus inaccessibles du globe. C'est-à-dire qu'on envoie aujourd'hui des robots qui vont aux confins du système solaire. On en a qui arpentent la surface de Mars. Mais on n'a pas accès direct à l'intérieur de la Terre. Les forages les plus profonds sont que des égratignures jusqu'à une dizaine de kilomètres et pas plus. Donc si on veut aller plus loin, il faut d'autres approches.
Donc on va très en profondeur dans la Terre, dans notre réflexion d'aujourd'hui, donc forcément on n'y a pas accès hein, pour des raisons qu'on peut peut-être rappeler. Hein. Est-ce qu'on peut donner une idée du rayon de la Terre? Où est le centre? À combien de distance de nos pieds par exemple?
Alors il est à peu près à 6400 km de nos pieds et la Terre est constituée de couches qui sont très différentes. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une première partie, alors il y a la croûte sur laquelle on est, qui est une partie très importante pour nous, pour la vie, pour tout ce qui s'y développe, mais qui en termes de volume sur le bilan de la planète est relativement faible. Ensuite, on rentre dans une couche assez épaisse de roches solides jusqu'à 2900 km de profondeur qu'on appelle le manteau. Et en dessous de ça, c'est le noyau qui est constitué de fer essentiellement avec quelques autres éléments et qui est liquide dans sa partie supérieure avec au milieu une petite graine solide.
Si on comprend bien, à la surface, bon, on a cette partie que nous fréquentons régulièrement. En dessous, il y a des choses plus mystérieuses. En dessous de 2000-3000 mètres, ça devient très compliqué de comprendre ce qui se passe. Et encore en dessous, on est un peu dans une forme d'inconnu, quoique les outils que vous avez permettent de modéliser, de comprendre les mécanismes, et notamment les mécanismes qui se passent sur des durées très longues d'évolution, de changement, de mouvement.
Oui, c'est un système qui est dynamique, c'est-à-dire que la Terre est une planète qui est active. Alors ça, on le sait par ses manifestations de surface, le volcanisme, les tremblements de terre sont les manifestations les plus spectaculaires de l'intérieur de la Terre. Depuis maintenant un peu plus de 50 ans, ces différentes manifestations sont relativement bien comprises, ont été rassemblées dans un corpus global qui s'appelle la tectonique des plaques. Donc on a une compréhension assez bonne de ces phénomènes, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le moteur de cette tectonique des plaques, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait bouger les plaques, pourquoi est-ce qu'elles se déplacent, pourquoi est-ce qu'on a cette dynamique en surface. Et là, le moteur, c'est le refroidissement de la planète, c'est-à-dire que la Terre est encore une planète chaude, elle expulse 44 térawatts dans l'espace, alors ça, c'est toujours des grands nombres, ça représente à peu près un gros radiateur électrique par habitant de la planète, et avec ça il faut faire fonctionner le champ magnétique, les séismes, les volcans, etc. Mais ça résulte quand même dans le fait que plus de 98% du volume de la planète est à plus de 1000 degrés, donc c'est véritablement une planète qui est chaude et qui doit expulser sa chaleur. Et pour ça, il n'y a pas 50 possibilités. On peut dissiper la chaleur soit par rayonnement, comme le soleil nous chauffe, mais les roches du manteau sont opaques, donc ça ne fonctionne pas. On peut dissiper la chaleur par diffusion, mais les roches du manteau sont de bons isolants, c'est bien avec les roches qu'on fait les murs de nos maisons. Et donc la seule façon suffisamment efficace d'expulser cette chaleur, eh bien, c'est de la prendre véritablement avec la matière chaude en bas, de l'amener en haut pour qu'elle puisse se dissiper. C'est ce qu'on appelle la convection.
Est-ce qu'on peut parler de périodicité ou de périodes qui font que pendant une certaine durée, il y a une activité bien précise qui peut amener des changements climatiques, par exemple? Est-ce qu'on est dans ce cas actuellement?
Le budget de chaleur qui sort de l'intérieur de la Terre est très faible en comparaison avec ce qu'on reçoit du Soleil. C'est-à-dire que le forçage climatique, il est essentiellement extérieur et pas tellement par la chaleur qui est dégagée en interne. Par contre, dire aussi qu'il y a des cycles, oui, si on regarde à peu près les vitesses de déplacement de la matière dans les couches internes de la Terre, on peut dire que ces cellules de convection correspondent à des périodes qui sont de quelques centaines de millions d'années. Voilà l'échelle de temps sur laquelle on est.
Si on prend la croûte terrestre et aussi les plaques dont on parle, quand on parle de tectonique des plaques, etc., est-ce que ces modifications à la surface de la Terre, et même parfois en profondeur, sont activées par justement ces grands mouvements qui sont en dessous?
Exactement. C'est eux qui génèrent tout le moteur de la tectonique des plaques, c'est-à-dire qu'il y a de la matière chaude qui monte et qui, à ce moment-là, va donner un petit peu de fusion, former les volcans sous-marins et créer les plaques océaniques. Ces plaques océaniques sont chaudes, se refroidissent, deviennent denses, replongent à l'intérieur du manteau. Et donc, on voit bien qu'on a à la fois des flux de matière chaud ascendant et des flux de matière froid qui descendent et bon, qui brassent tout le manteau terrestre, mais qui entraînent ce qui se passe en surface et donc qui créent les collisions, qui crée l'orogenèse, la création des montagnes, qui bloque, grippe à certains endroits et donne lieu à des séismes, et puis à du volcanisme, encore une fois, et par cette matière chaude qui remonte, et aussi en d'autres endroits, parce qu'en redescendant, elle entraîne de l'eau, et l'eau aide à la fusion des roches, et donc crée du magmatisme supplémentaire, c'est le volcanisme d'arc.
Donc cette Terre a bien évolué en plusieurs milliards d'années. Est-ce qu'on peut avoir une idée par rapport aux grands mouvements qui ont déjà eu lieu et dont on peut peut-être avoir une trace dans l'histoire de ce qui va se passer pour l'avenir?
Pour l'avenir, à court terme, on ne voit pas de changement majeur dans le régime de convection, mais ce n'est pas des choses pour lesquelles on a une modélisation qui est très simple. Par contre, ce qui est clair, c'est que tout ceci va se ralentir très très progressivement quand la Terre deviendra de moins en moins chaude et finira par se figer. Mais là, sur des échelles de temps qui ne nous posent pas beaucoup de problèmes.
Est-ce que ce que vous avez observé peut aussi correspondre ou du moins avoir une correspondance sur d'autres planètes de l'univers?
Exactement, parce que globalement, on a d'assez bonnes raisons de penser que les constituants des différentes planètes telluriques sont relativement proches. Alors, il y a des différences. Par exemple, si on parle de Mars, les roches de Mars, du manteau martien, sont un peu plus riches en fer que celles de la Terre. Donc, on va pouvoir nuancer, mais je ne suis pas de toute façon encore déjà rentré dans le détail de ces compositions. Mais autrement, ce sont globalement les mêmes matériaux que l'on attend. Donc, étudier la dynamique planétaire de la Terre, c'est étudier la dynamique des planètes telluriques. Ce qui fera la grosse différence, ça sera la taille des planètes. Et pour leur côté thermique, et puis pour les autres aspects de structure dont je parlerai peut-être un peu plus tard.
Alors, pour des raisons un peu étranges, on a l'impression que le monde est davantage connu par sa surface, voire par son extérieur, c'est-à-dire l'univers d'une manière générale, que par l'intérieur de notre planète Terre, non ?
Exactement. C'est véritablement la zone la plus inaccessible de la planète, son intérieur. Et pour une raison qui est assez simple, un paramètre physique qui gouverne toute la physique de l'intérieur des planètes, c'est la pression. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'on s'enfonce, on doit subir le poids des couches successives qui sont au-dessus, et ça construit des pressions qui sont absolument colossales. Alors, colossales, le but n'est pas juste d'employer des superlatifs pour impressionner, mais en gros, le manteau terrestre, donc je répète, jusqu'à 3000-2900 km de profondeur, correspond à des pressions de 135 gigapascales. La pression atmosphérique à côté, c'est zéro, elle est dans les décimales. Et on est à 350 gigapascales au centre de la planète. C'est-à-dire, on parle aussi, pour donner une vision un peu plus sensationnelle, on parle dans une autre unité, le mégabar. Donc on est à des méga fois la pression atmosphérique. Et ces pressions sont tellement importantes, c'est pas juste qu'elles appuient et que c'est des contraintes mécaniques. Ces pressions sont tellement importantes que la matière subit des modifications profondes par rapport à ce qu'on connaît. C'est-à-dire que les minéraux que l'on connaît, les roches auxquelles on a accès à la surface de la Terre, se transforment profondément sous l'influence de cette pression, de température aussi, mais vraiment sous l'influence de cette pression pour devenir plus compacte, et donnent lieu à une minéralogie complètement, complètement différente.
Alors c'est vrai que les outils, on va dire, traditionnels pour voir ce qu'il y a sous nos pieds, je pense aux instruments de forage, etc. Cette profondeur-là, bon, c'est évidemment pas possible d'y penser, d'y faire recours. Donc la modélisation, les outils informatiques sont les instruments qui permettent de matérialiser un petit peu les évolutions.
Alors c'est ce qu'on développe actuellement, mais pour être juste, il faut dire que ce n'est pas comme ça que ça a débuté. C'est-à-dire que depuis les années, on va dire les années 50, il y a eu des gros efforts qui ont été faits pour avoir une approche expérimentale d'abord. Hein. Face à l'impossibilité d'y aller, face à l'impossibilité de faire de l'exploration directe, pour donner quand même aussi quelques informations, hein, l'homme va jusqu'à 4 km sous terre, les mines les plus profondes comme celle qui est en Afrique du Sud, c'est 3,5-4 km de profondeur dans des conditions qui sont assez infernales, une température de 50 degrés, enfin quelque chose comme ça. Les forages, je l'ai dit, 10 km, c'est à peu près le bout de ce qu'on est capable de faire. La raison, encore une fois, c'est la pression, hein, c'est-à-dire que faire un trou lorsqu'on a des pressions sur le côté qui sont si colossales, c'est quelque chose qui devient vite impossible. Donc face à cette incapacité à explorer directement, soit nous, soit des robots même, hein, à l'intérieur de la planète, les approches qui ont été développées ont été expérimentales. Donc ça a été de se dire, d'accord, on ne peut pas y aller, mais est-ce qu'on est capable de reproduire en laboratoire ces très hautes pressions pour comprendre la structure de l'intérieur de la planète. Et ça a débuté, on dirait, après la Deuxième Guerre mondiale. Un point qui a été un moteur très fort dans ce domaine, ça a été la quête de la synthèse des diamants. Les diamants font partie de ces minéraux d'eau de pression. Hein. Le diamant, c'est du carbone. Le carbone à la surface de la Terre, c'est le charbon. Et on voit bien la différence entre le charbon et le diamant, qui montre bien à quel point la matière atteint des états complètement différents sous pression. Hein. Il n'y a pas plus différent que ces deux-là. Le graphite est bon conducteur d'électricité, le diamant est un isolant, il y a un qui est opaque, l'autre qui est transparent, enfin voilà. Et tout ça, c'est dû aux modifications de structure que subissent tous les minéraux. Donc, les gens ont développé des presses, des grosses presses, pour progressivement augmenter la pression et pour générer ces conditions de l'intérieur de la Terre. Et actuellement, l'outil le plus performant pour atteindre ce genre de choses, c'est ce qu'on appelle la cellule à enclume de diamant. C'est-à-dire qu'on prend deux beaux diamants de bonne taille, en taille de joaillerie par exemple, et la petite pointe en dessous, la culasse, on la coupe, on fait une petite table, on met deux diamants tête bêche, et entre ces deux toutes petites surfaces, on peut comprimer très fortement la matière. Donc ça a été véritablement le gros chantier qui a démarré. Alors pour les grosses presses en acier dans les années 50, la cellule enclume de diamant, ça a été après les années 70, ce qui a permis d'étendre considérablement le champ de ce qu'on pouvait reproduire en laboratoire. Et à partir de ça, sur un chantier, je le répète, qui a duré 40 à 50 ans sur le plan international, on a pu se faire une idée déjà de la structure des minéraux de l'intérieur de la Terre d'identifier les phases prépondérantes. Et notamment, si on parle du manteau, qui est nous la zone de la Terre à laquelle on s'intéresse, il y a un minéral d'une structure perovskite, MgSiO3, que l'on n'a jamais vu à la surface de la Terre, qui n'existe pas, qui n'est pas stable, mais qui représente moitié de la masse de la Terre. Donc ça veut dire que, vu de Sirius, la Terre, c'est de la pérovskite et du fer, le reste étant du détail, mais pour nous, terriens, cette pérovskite, on ne l'a jamais vue, à part des tout petits bouts en laboratoire. Donc ça a été la première approche, quoi. Une approche purement expérimentale et qui, encore une fois, donne lieu à des développements importants. Alors effectivement, nous, ce qu'on essaye en parallèle et en complément de ces approches expérimentales, c'est d'avoir une approche numérique. C'est de se dire qu'on a aujourd'hui des outils théoriques, d'abord, hein, qui permettent de décrire ces modifications de structure sous pression. Et puis, c'est pas tout d'avoir des outils théoriques. La théorie, il faut la mettre au travail. Et donc, là, pour ça, le développement des puissances de calcul, scientifiques, ont été absolument nécessaires.
Donc, dans ces travaux, j'allais dire, d'Hercule, l'homme est finalement un fétu, un grain de riz, pas grand-chose, quoi.
Alors, tous les chiffres auxquels on est confronté sur l'aspect mécanique nous dépassent complètement. Ça, c'est absolument évident, oui.
Donc, il n'y a pas vraiment d'interaction entre la présence de l'homme et les modifications de la Terre dans ses profondeurs.
Non, là on est sur des masses, on est sur des échelles de temps. Qui se préoccupe très très peu de ce qui se passe en surface. La surface intervient surtout comme une couche limite thermique, c'est-à-dire que bon, en gros, c'est le fait que ce soit la zone la plus froide qui va compter essentiellement pour ça. Alors c'est pas tout à fait vrai, mais enfin on est aussi sur des grandes échelles. Le fait qu'il y ait de l'eau à la surface de la Terre fait qu'on a cette bizarrerie qu'est la tectonique des plaques, parce que si on regarde, on n'a pas de tectonique des plaques sur Vénus, on n'a pas de tectonique des plaques sur Mars, donc ce régime de surface, la condition aux limites particulières de la Terre est sans doute due à la présence d'eau. Mais il n'empêche qu'après, quand on reprend un petit peu de recul, il n'y a plus de différence colossale entre la description d'une convection sur une planète comme Mars ou comme la Terre.
Donc le peu d'influence de l'homme dans ces éléments, effectivement, c'est quelque chose à prendre en compte. Par contre, ces études qui sont faites peuvent servir l'homme en quoi ?
Alors elles servent l'homme d'abord en la compréhension des phénomènes, parce que, je l'ai redit, hein, ces conditions limites entraînent des séismes, des volcans, et ça on a besoin de mieux prévoir, on a besoin de mieux comprendre ces phénomènes. Or on sait encore une fois que ces phénomènes trouvent leurs racines beaucoup plus profondément. Donc le gros progrès de la tectonique des plaques, ça a été de dire il n'y a pas juste à étudier ce volcan par-ci ou ce séisme par-là, il y a une logique globale à tous ces phénomènes, ça c'était déjà une chose, mais la convection mentalique donne une vision beaucoup plus globale et dit voilà, il faut comprendre le comportement de la machine thermique Terre. Bon, donc ça veut dire que on ne peut pas avoir de description mature de la dynamique de notre planète ou des autres, mais en ce qui nous concerne de notre planète, si on n'a pas la capacité de faire une modélisation de ces phénomènes de convection. Et ça, les codes existent actuellement, des gens les font fonctionner, mais ils ont besoin des paramètres. Quels sont les paramètres? Comment se déforment les roches de l'intérieur de la Terre? Et ça, c'est l'extrême difficulté que l'on a, et c'est vers ça que tendent nos travaux. C'est-à-dire qu'on essaye, par la modélisation numérique, de rendre compte de ces phénomènes.
Est-ce que le fait que la Terre tourne a une influence sur les mouvements qui se font en profondeur?
Le fait que la Terre tourne fait qu'elle est légèrement aplatie au pôle, ça c'est au XVIIIe siècle qu'un certain nombre de mesures du méridien ont permis de le montrer. Donc ça a un effet global, mais d'un rapport d'un aplatissement d'un 300e qui n'est pas colossal. Le fait que la Terre tourne a un énorme effet sur les masses fluides du noyau et sur le champ magnétique. Alors là c'est absolument colossal, parce qu'on ne peut pas comprendre la convection dans le noyau externe, liquide, si on ne tient pas compte et des aspects thermiques, mais des aspects de rotation. Mais c'est parce que dans le noyau, on est sur des échelles de temps qui sont complètement différentes. On est sur des échelles de temps courtes qui peuvent coupler avec la rotation de la planète. Le manteau, lui, va bouger sur des centaines de millions d'années, alors que la Terre tourne à toute vitesse pendant ce temps-là.
Alors, vous prédisiez tout à l'heure la fin du monde, mais pas forcément pour 2012. Est-ce que, justement, à l'échelle de ce temps, il y a aussi des modifications de vitesse de rotation de la Terre ou de choses comme ça ?
Absolument, oui. C'est effectivement dans ce sens-là que c'est pris. Quand il y a déplacement des grandes masses à l'intérieur de la Terre, ça change un petit peu son moment d'inertie et ça change un petit peu la longueur du jour. Et ça, les géophysiciens utilisent les mesures fine de variation de longueur du jour pour essayer d'avoir des contraintes supplémentaires sur la dynamique de l'intérieur de la planète.
Donc votre laboratoire, on va rappeler le nom ?
Unité matériaux et transformation.
Donc Patrick Cordier, comment ce laboratoire travaille en complémentarité ou en spécificité de ce qui se fait en Europe, par exemple, ou dans le monde?
Alors, la spécificité qu'on peut avoir en Europe ou dans le monde, c'est que, il faut que je redise peut-être aussi un petit peu plus, nous, ce qu'on a fait, c'est vraiment d'utiliser, de dire, si on veut comprendre ces mouvements de convection, il faut comprendre comment se déforment ces matériaux solides. Donc, nous sommes une équipe qui sont spécialistes de la déformation des matériaux, et pour ça, on bénéficie d'un excellent environnement, parce que la France est sans doute aujourd'hui le pays qui a la meilleure communauté dans l'étude de la plasticité des matériaux. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a énormément enrichi et donc qui nous a permis de prendre ce savoir-faire et de le transporter vers un autre domaine, puisque c'est une science d'interface qu'on développe, hein. Donc utiliser des savoir-faire de la physique des matériaux et de l'amener vers la géophysique. Or ça, ça c'est un travail qui est absolument unique actuellement et encore une fois qui est rendu possible grâce à la qualité des équipes françaises et grâce au terreau qu'on a autour de nous.
Et aussi des financements qui peuvent aider?
Alors ça, c'est ce qui permet après de déclencher effectivement des financements. Les financements sont aujourd'hui essentiellement sur appel d'offres, donc appel d'offres nationales, mais qui ne sont pas dans la meilleure forme actuellement, et aussi au niveau européen. Donc là, on a fait des demandes au niveau du Conseil européen de la recherche, European Research Council, qui nous a attribué un financement assez exceptionnel de près de 2,5 millions d'euros sur 5 ans pour conforter notre place de leader dans ce domaine.
Voilà, donc est-ce qu'on peut dire que le fait que vous interveniez à partir d'un labo en France n'a aucune importance par rapport à la localisation de vos travaux, puisqu'ils sont sur la planète entière ?
Absolument, oui. La localisation en France, je le disais, ça compte par rapport à l'environnement scientifique que l'on a. C'est ça qui est important, et c'est effectivement d'être dans un environnement scientifique puissant et de haut niveau qui aide à le faire. Mais après, comme il n'y a pas de recherche de terrain particulièrement, ça n'est pas très important.
Où en est la recherche actuellement en France? Bon, on a pas mal d'effets d'annonce en ce moment. On ne sait pas trop les mettre en perspective avec la santé ou non de notre recherche.
Ben, tout dépend à partir de quoi on l'évalue. Là, je ne peux pas parler d'une manière complètement générale, mais pour ce domaine scientifique, il faut savoir que les sciences de la Terre et surtout les sciences de l'intérieur de la planète, c'est un relativement petit domaine scientifique comparé à d'autres gros domaines comme la santé ou des domaines comme, je ne sais pas, l'informatique. Mais c'est un domaine qui est très bien, depuis plusieurs dizaines d'années, qui est très très bien positionné sur le plan international. C'est-à-dire que dans ce domaine, les équipes françaises, et il y en a plusieurs sur le territoire, sont tout à fait en pointe et tout à fait bien positionnées. Donc là aussi, on est sur ce plan-là dans un bon environnement, sur le plan international.
On peut parler de publication ?
On peut parler de publication, bien sûr, c'est absolument fondamental. Donc là, le fait d'avoir pu pousser un petit peu plus loin les capacités avec ces modélisations nous a permis de faire des publications à fort impact, donc dans la revue Nature. Il y en a une qui vient de sortir il y a un mois à peu près, qui décrit justement cette nouvelle capacité d'utiliser la physique de déformation des matériaux pour comprendre la convection du manteau.
Si vous aviez un vœu à faire sur vos recherches et leur utilité pour le monde d'une manière générale, sinon le public?
Le public, eh bien, c'est effectivement pour le public que nous travaillons, hein. La recherche que l'on fait, financée sur fonds publics, est une recherche qui est nécessairement vers le public et qui doit être mise en commun et transversalisée. Ça, c'est absolument fondamental. Avoir une meilleure connaissance de la dynamique de notre planète est quelque chose dont on sait qu'on a besoin pour pouvoir aborder les grands enjeux. Donc ça, c'est quelque chose aussi auquel on est très attaché. Autrement, faire des vœux, je pense qu'avec le financement de l'ERC, j'ai été suffisamment servi pour laisser à d'autres le fait de faire d'autres vœux.
Est-ce que ce type de pôle d'excellence peut amener des vocations nouvelles et comment ça se traduit dans l'enseignement et notamment à Lille 1?
Oui, je pense que c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement important parce que ça met fortement en visibilité des travaux, parce qu'on sait bien que c'est toujours aussi un petit peu la difficulté de mettre en visibilité ce qui se fait. Là, des financements comme l'ERC donnent une grande visibilité, que ce soit sur le plan européen ou sur le plan international, et permet de faire venir des spécialistes, piste, donc de faire se rencontrer les populations d'étudiants que l'on a, de chercheurs que l'on a dans notre environnement avec d'autres, de créer du brassage, de créer de la dynamique. Donc ça a des effets qui sont extrêmement importants, oui, et sur le moyen long terme.
On peut s'attendre à des événements, des rencontres à Lille ou dans la région?
Alors absolument, on va le projet ERC qui s'appelle Reoman va démarrer son financement en mai 2012. Et donc on fera une réunion de lancement du projet qui permettra de présenter un petit peu ce qui va se faire avec sans doute, puisque je pense que ça s'y prête. On a le projet de faire une conférence grand public aussi qui donne un pendant un petit peu plus large de ce qui sera fait pendant une journée, qui sera une journée essentiellement dédiée à des travaux de recherche.
Professeur Patrick Cordier, je vous remercie.
Merci beaucoup.